Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des lycéens, présenté aujourd'hui par Hugues Sérapion, diffusé en direct samedi 22 mars 2008 de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et dimanche 23 dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission est réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau libre journal. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et je vous propose aujourd'hui que nous nous intéressions à l'état du monde, à l'état de notre monde. Nous allons essayer d'analyser les grandes tendances de fond, celles qui structurent l'histoire des hommes. Bref, d'essayer de faire un petit peu de prospective et d'analyse avec toute l'humilité évidemment que cet exercice requiert. Alors pour nous accompagner dans notre tour d'horizon des espoirs et des menaces de notre époque, j'ai prié Xavier Guillou. Xavier Guillou, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes spécialiste en prévention des crises et de l'aide à la décision stratégique. Dans ce cadre et dans le cadre de vos activités, vous conseillez un certain nombre de chefs d'État et de chefs d'entreprise. Et vous avez particulièrement étudié la question des crises, de leur formation et des moyens d'y remédier. On peut également citer deux de vos derniers ouvrages, le premier « La fin du risque zéro » et le second « Quand la France réagira », tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors, avant de nous lancer dans l'analyse du présent, j'aimerais que vous nous brossiez peut-être une petite mise en perspective historique. On a toujours l'habitude de se lamenter un petit peu de notre époque, c'est le lot de toutes les générations, mais le monde tel qu'il est aujourd'hui, si nous le comparons par exemple, puisque nous sommes bientôt en 2009, si nous le comparons par exemple à celui de 1989, ou à celui de 1909, ou à celui de 1889, y a-t-il lieu de se féliciter ou de s'inquiéter de son évolution?
Alors, on vit toujours dans une période à la fois idéale et en même temps problématique. Et c'est vrai que quand on commence à se pencher sur l'état du monde, on ne voit, je dirais, que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. On voit que les catastrophes ou les situations un petit peu critiques. Et si on prend un petit peu de recul, en effet, on peut, non pas forcément nuancer, mais au moins requalifier ces affirmations. Alors je dirais que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, il est très différent de celui de 1989.
Déjà.
J'ai bien connu cette période avant 1989, enfin entre l'après-guerre et 1989, qui fut celui de la guerre froide. Il est évident qu'on est sorti de ce monde-là, de cette grande schizophrénie qui a permis à deux très grandes puissances de dominer le monde autour de deux grandes idéologies dominantes, hein, qui étaient le communisme d'un côté et puis l'idéologie libérale capitaliste de l'autre. On est sorti de ce monde-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la période de la guerre froide, on est plutôt sur une tendance, de fond à un certain réchauffement, non pas forcément climatique, mais géostratégique. avec des niveaux de, en effet, de tension, de radicalisation qui s'affirment et de repositionnement de jeux de pouvoir et de puissance.
Mais si je puis me permettre déjà de vous interrompre, et je vous prie de m'en pardonner, Xavier Guillou, cette sortie de la guerre froide, disons-le quand même, par rapport à la menace que cela faisait peser sur l'humanité et au fait qu'il y avait 2,5 milliards d'hommes sous le joug communiste, c'est quand même un progrès extraordinaire. C'est une divine surprise. On a l'impression, à entendre aujourd'hui certains commentateurs, que l'on devrait regretter ce temps. C'est incroyable. Non, pour moi, qui ai également été jeune homme au moment où le mur existait, ça me paraît hallucinant.
Divine surprise, c'est pour Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II qui nous a en grande partie permis de, notamment sur le sanctuaire européen, de rentrer dans cette bascule.
Je ne sais pas, mais je ne fais que constater.
Moi, c'est une de mes convictions que j'exprime volontiers à la radio, ayant connu cette période dans des instances qui étaient quand même particulièrement exposées, puisque juste avant la chute du mur de Berlin, je travaillais, parce que maintenant c'est connu, je travaillais dans les services secrets, donc j'ai bien connu ces niveaux d'engagement que nous avons eus entre les deux grandes idéologies qui s'affrontaient sur le sanctuaire européen. Et c'est vrai que cette bascule s'est faite très rapidement et elle s'est faite sur avec des dynamiques de fond qui étaient très opposé ou très très différent de ce que les gens pouvaient attendre. Ça s'est pas passé sur le champ militaire, ça s'est pas passé sur le champ diplomatique. Ça s'est passé au travers, je dirais, d'une résistance importante des sociétés civiles, et puis au travers du non gouvernemental. Enfin, je veux dire, qui du reste aujourd'hui devient un champ extrêmement important dans la vie internationale.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas à regretter.
Moi, je ne regrette pas cette bascule, parce que c'est vrai que nous étions dans quelque chose d'assez aberrant. Et d'assez aberrant, non pas forcément pour l'Ouest qui en a profité, mais je pense notamment pour toute la partie orientale de l'Europe, et même pour beaucoup de pays dans le reste du monde qui ont été particulièrement touchés par le communisme. On parle de 80 millions de morts du côté de l'Europe de l'Est, de l'Union soviétique. Mais il faudrait y ajouter aussi tous les génocides dérivés qui ont eu lieu sur le reste de la planète, par le Cambodge et ce qui s'est passé sur l'Afrique, etc.
Les 80 millions de morts, d'après ce que j'ai pu comprendre de l'analyse de Stéphane Courtois, est un décompte scientifique, c'est-à-dire ce qui est prouvé. La réalité des experts est plutôt autour de 200 millions, puisque déjà Chine avoue elle-même que la révolution culturelle a fait 100 millions de victimes.
C'est pour ça que je dis, je ne parle que des 80 millions de morts que nous avons diagnostiqué sur notamment la partie orientale de l'Europe, mais en effet, les dégâts ont été beaucoup plus importants au travers des guerres indirectes sur l'ensemble sur les différents continents.
Mais je vous ai interrompu.
Non. Je pense qu'il était temps qu'on sorte de cette époque qui nous a assuré à nous, Europe de l'Ouest, une certaine sérénité, une certaine prospérité, une certaine sécurité. Puisqu'on était plutôt dans le bon camp. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des rééquilibrages, il y a des réajustements. Et ça explique peut-être pourquoi certains experts préféreraient finalement revenir à ce vieux temps. Il est quand même plus facile d'être dans un système bien ordonné, avec un ennemi bien identifié, plutôt que d'être dans, aujourd'hui, cette instabilité que l'on a un peu partout sur la planète, et avec un ordre qui n'existe pas. Enfin, il n'y a pas d'ordre aujourd'hui. On est plutôt
est dans l'ordre de l'histoire.
Au fondement de ce qu'est l'histoire. L'histoire de l'humanité, c'est un mouvement permanent de vie et de mort, hein, de rapports de force entre des gens qui sont dominants, d'autres dominés, de gens qui ont des ambitions, d'autres qui refusent d'en avoir ou qui n'en ont plus, etc. Et avec des centres de pouvoir, d'expression du pouvoir et de la puissance qui se déplacent au gré, je dirais, de ses ambitions, de ses pulsions, voire même de rapports de force plus physiques, plus concrets.
Et par rapport à 1909, alors?
Alors, je dirais, bon, par rapport à 1909, c'est vrai que la guerre froide que moi j'ai vécue était une guerre à la fois sourde, avec une schizophrénie, une chape schizophrénique très très forte. On n'était pas sur des niveaux d'affrontement ouverts, comme on l'a connu après, malheureusement, 1909, avec la Première et la Seconde Guerre mondiale, où là, nous étions dans des... nous avons vécu des confrontations fratricides, essentiellement sur le sanctuaire européen, et qui ont endeuilli, je dirais, toute notre histoire, et nous ont même, notamment au niveau européen, emmuré dans une forme de régression collective entre nous, qui aboutit du reste à cette domination de nos deux neveux, les deux neveux issus de cette vieille Europe que sont les Américains et les Russes.
Napoléon disait les États-Unis et la Russie, deux empires au berceau.
Oui, tout à fait. Et je pense que cette période, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ont été très traumatisantes pour l'Europe, parce que nous avons été très touchés dans notre chair. Hein. On le voit bien avec les dernières commémorations que nous avons en France. Enfin, je veux dire, Daniel Poilu, Tom Morel, Étienne Dorf. Enfin, bon, on est très très marqués, je dirais, par cette souffrance collective dont on a du mal à sortir, du reste.
Pourquoi
on est resté, et puis on s'est laissé dominer, je dirais, par nos neveux qui finalement ont essayé de mettre un terme à ces querelles de vieux oncles, parce qu'il faut quand même pas oublier que quand même toutes ces querelles de vieux oncles, tout parait de 1909, tout ça était quand même une querelle de famille.
Oui, à tous égards.
Y compris lorsque l'on voyait les maisons royales,
gouvernant l'Europe.
Oui, tout à fait, c'est la même famille. Enfin,
cette sorte d'accouchement de la modernité dans la douleur est quelque chose que nous n'avons pas fini d'étudier.
Tout à fait. Alors que quand on remonte un peu plus en amont, nous étions, puisque vous parlez de...
1889, parce que là, il y a une sorte
de... Là, on était au contraire dans une espèce de montée en puissance qui était très forte. On sortait de ces confrontations autour de d'une certaine vision de l'universalité de la modernité, enfin de toutes les confrontations du début du XIXe siècle derrière la Révolution française et autres. Et là, on est en train de trouver une certaine marche en avant, et l'ensemble des pays européens notamment étaient porteurs de grandes idées
de modernité dans tous les sens du terme,
et puis avec des initiatives en termes de mondialisation qui était spectaculaire.
C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en effet c'est les idées d'universalisme issues en partie des Lumières trouvent leur application économique à partir de cette époque-là.
Ouais.
Et l'Europe et l'Occident qui dominaient le monde le dominaient intellectuellement et localement et militairement, mais dans leur sphère. Or là, cette mondialisation fait que cette domination européenne...
Alors je crois que c'est ça, c'est fait. Voilà.
Et ça, c'est quand même... Et je n'ai pas choisi cette date au hasard.
Non,
mais il y avait les neuf qui se répondaient, et cette exposition universelle qui est en quelque sorte la première
démonstration
médiatique de cette puissance.
Et il y avait le monde entier à Paris.
Oui.
Il faut quand même s'en rappeler. Enfin, je veux dire.
Il y a encore des vestiges.
Tout à fait.
Dans nos monuments, le Petit et le Grand Palais qui sont au cœur même de Paris sont des constructions éphémères. Mais l'éphémère dure.
Sans parler de
la Tour Eiffel, évidemment.
Oui, mais c'était quand même emblématique de cette époque-là. C'est-à-dire que ce soit les Anglais, les Français, les Allemands, les Hollandais, etc. Tout le monde se projetait dans tous les pays du monde. Enfin, on parle de la mondialisation à l'heure actuelle, mais à cette époque-là,
elle était plus rapide, peut-être encore, et plus radicale.
Et avec beaucoup d'audace. Et avec beaucoup d'audace.
Quand on
regarde quand même les réalisations qui ont été faites à cette époque-là, on n'avait pas le TGV, on n'avait pas des avions supersoniques, on n'avait pas l'Internet, etc. Et on avait des équipes qui partaient, des équipes d'industriels, mais pas que d'industriels. Il y avait aussi
d'hommes du rang,
des professeurs, des militaires. Enfin, il y avait tout. On a diffusé, comme on dirait aujourd'hui,
en termes militaires. Et d'ailleurs,
Du reste, le terme de colonisation est intervenu beaucoup plus tard. Parce que à cette époque-là, on parlait de la France à l'extérieur, on parlait de l'Angleterre à l'extérieur, etc. Et l'idée de colonisation n'est intervenue qu'au XXe siècle.
Voire de la plus grande France, hein, voilà, selon le terme.
Il suffit de re-regarder. Écoutez, moi, tous ceux qui en douteraient, je leur suggère de relire les illustrations de l'époque, qui étaient autrement mieux écrites. Oui, tout à fait, mais qui étaient absolument. Enfin, moi, j'en ai pas mal à la maison, mais qui étaient absolument extraordinaires. Enfin, qui nous emmenaient dans des voyages intercontinentaux et avec des illustrations de la vie locale qui n'ont rien à voir avec, les journaux qu'on peut avoir aujourd'hui.
Et avec une vision très positive. Oui. Alors, qui peut faire sourire avec le recul, parce qu'aujourd'hui, on aime peser le pour, le contre, la difficulté de la prise de risque, etc. Mais il faut aussi voir combien tout cela a motivé des générations pour aller de l'avant, pour construire en France ou ailleurs, et a donné un élan à nos peuples.
Moi, je vais vous donner simplement une
anecdote. Ça a fait rêver des enfants. Il y a quand même des gens qui sont devenus entrepreneurs, militaires, marins, courtiers.
La plupart de nos...
Parce qu'ils ont rêvé sur des cartes de 1800 et
quelques. La plupart de nos grandes figures du CAC 40, enfin, je pense à certains groupes industriels ou même à certaines banques, sont nées à cette période-là. Ils sont nés sur des aventures humaines hors du commun. Ben moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Spi Batignolles. Spi Batignolles, c'était la société parisienne pour l'industrie électrique et la compagnie des Batignolles, qui avec Eiffel, la compagnie Eiffel, dans les années 1889, construit des ponts, des chemins de fer, des lignes électriques dans le monde entier. Dans le monde entier.
Ce qui montre
et ces entreprises-là, existent toujours.
Et elles font vivre nombre de nos compatriotes.
Oui, elles ont conservé. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'elles ont conservé cette culture du départ, c'est-à-dire une culture d'entrepreneur, une culture du risque et une culture de l'audace. Que les technocrates ou les bureaucrates des années 90 n'ont pas réussi à éradiquer.
Oui. Et disons aussi à nos auditeurs que ce que l'on crée aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on plante et qui peut se développer, et ça a beau être petit et modeste au départ. Ouais. Tout ça pour faire le lien, peut-être si vous le voulez bien, Xavier Guillou, je regarde de temps en temps dans les magazines, on voit des photos et on voit par exemple des photos de ces immeubles, de ces villes qui se construisent en Asie. Mais finalement, c'est un petit peu ce qui se passait dans les années 1880 et autres.
J'aime souvent
comparaison est un peu osée.
Enfin, disons qu'on les mégalopoles qui se construisent aujourd'hui sont quand même d'une autre dimension que celle que nous avions dans les années 1880. Mais toute proportion.
Ce que je veux dire, c'est qu'elle révèle un besoin une dynamique. Alors après, que ça présente des menaces, des risques, etc. Bien entendu, mais ça répond à un besoin de ces hommes et de ces femmes.
Et si on regarde l'histoire de ce 19e siècle et notre histoire aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'Asie, on dit l'Asie a une démographie absolument démentielle, etc. Mais l'Asie avait déjà une démographie extrêmement importante au 19e siècle. Ouais. Et la Chine au début du 19e siècle fin 18e, début 19e, était considérée comme quasiment la première puissance du monde. Donc, je veux dire,
il y a des permanences.
Je sais pas s'il y a des permanences, mais du moins, on a vraiment besoin de prendre un petit peu de recul par rapport, si vous voulez, à cette information instantanée qu'on reçoit et qui, est très anxiogène parce qu'elle est, diffusée d'une manière très particulière. Mais, et là-dessus, puisqu'on parle de ces années, cette fin du 19e, on dit aujourd'hui vis-à-vis de la Chine progresse d'une telle manière, etc., que même sur le plan sécuritaire, on n'arrivera jamais à la dominer ou en avoir raison, etc. Moi, j'invite les auditeurs à aller relire toute l'histoire de la Seconde Guerre de l'Opium, fin du 19e, parce que l'empereur de Chine n'avait pas voulu être très conciliant sur les histoires des concessions. Il avait commencé à taper un petit peu sur nos quelques jésuites que nous avions sur place. Les Français et les Anglais ont décidé de mettre en œuvre une escadre franco-britannique, avec quelques troupes de marine et une marine assez assez aguerrie. Et puis on est allé en Chine. On est allé en Chine et on a repris les différentes grandes villes du littoral. On a débarqué à Tianjin, qui est le port de Pékin, et on est remonté à Pékin et on a pris le palais d'été. Et quand vous expliquez aux Chinois aujourd'hui que, par exemple, dans certaines négociations, s'ils ne veulent pas entendre raison, nous sommes encore capables de pouvoir faire le sac du palais d'été. Vous les voyez blêmir, parce que le sac du palais d'été, ça a été une démonstration, si vous voulez, de notre force, de notre détermination, puis de cette pulsion que nous avions en termes de l'instinct de pouvoir, qui s'est exprimé à l'époque et qui était sans ambiguïté. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est
est-ce que
nous serions à même, pour prendre par exemple l'Union européenne, puisqu'on parle beaucoup maintenant de l'Union européenne, est-ce que nous serions à même de pouvoir constituer une escadre européenne, comme on a monté un dispositif de l'EUFOR, par exemple, face au Soudan, pour aller faire entendre raison, aux Chinois, dans une éventuelle altercation avec le Japon ou avec Taïwan. Je pense que les Anglais et les Français seraient toujours capables de pouvoir monter.
Oui, vous le croyez.
Ce genre de
dissuasion nucléaire qui fait qu'aujourd'hui la Chine est un véritable sanctuaire. Enfin, est-ce que raisonnablement on peut
culturellement,
imaginer
culturellement nos armées, je pense aux Britanniques et aux Français, ont conservé cette aptitude et cette capacité à monter ce que les Américains appellent les task force, c'est-à-dire
des forces opérationnelles,
des escadres ou des forces de projection. On a cette culture-là, et puis en même temps, on est un petit peu mousquetaire ou corsaire, quoi. Donc dans notre façon de gérer la bataille,
et de penser. Mais justement,
on a encore conservé ces instincts.
Certes, David Guilloux, mais face à l'immensité de ce qui nous apparaît comme la puissance chinoise, peut-être à tort, on se dit que voilà, un temps a passé et que maintenant, les maîtres du monde, c'est l'Inde et la Chine, tant au niveau économique que au niveau militaire et géopolitique. Alors, et quand on voit la volonté des Chinois, nous sommes encore en train de discourir sur les méfaits ou les bienfaits de la colonisation en France et en Europe, alors que les Chinois arrivent
au
21e siècle, alors même que tous ces débats ont lieu, en étant d'une brutalité et d'un cynisme que même dans les pires, que même au fin fond du 19e siècle et de l'Afrique, on n'aurait jamais imaginé. Enfin, donc il y a quand même un décalage hallucinant, non?
D'abord, la Chine et l'Inde montent en puissance. Je pèse mes mots. Ils ne sont pas encore les maîtres du monde. Je crois qu'il faut
raison garder.
Oui, il faut faire quand même attention à ce que, si vous voulez,
on
évoque dans ce domaine-là parce que on aurait tendance, si vous voulez, à donner des ailes à des régions du monde qui ne les ont pas complètement. La Chine est en train de progresser à très grande vitesse et c'est vrai qu'avec des taux de croissance de l'ordre de 10% par an. En l'espace de 10-15 ans, elle a une certaine prétention aujourd'hui pour rentrer dans le top 10, je dirais, des puissances mondiales. Alors c'est vrai que quand on regarde en richesse accumulée, aujourd'hui, elle est en train de rattraper l'Allemagne, après la prochaine étape c'est le Japon et ensuite c'est la concurrence avec les États-Unis. Là-dessus, en termes, ça c'est une progression. Là-dessus, quand on rentre un petit peu dans le détail, la première puissance mondiale aujourd'hui reste les États-Unis, y compris en termes de création de richesses au niveau mondial.
Et pour combien de temps ?
Encore pour quelques temps. Je pense que là-dessus, nous en France, vous savez, on aime bien casser de l'Américain ou critiquer les Américains parce que il y a une forme d'idéologie qui rassure.
Moi, je pense que ceux qui rêvent d'une faillite de l'Amérique oublient que ce serait la nôtre avant la leur pour plein de raisons d'ailleurs.
Nous sommes déjà en faillite, donc on n'a pas besoin de l'attendre.
On est dans
ce registre-là. Mais si vous voulez, aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est dans un rapport, si on compare cette richesse, cette création de richesse en ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, enfin, c'est des trucs un petit peu compliqués au niveau des statistiques mondiales, la Chine n'est qu'à un dixième de ce que les Américains sont en mesure de générer. Et donc, la machine américaine est encore aujourd'hui, en termes d'inventivité, de créativité, de détermination, même de flexibilité, on va le voir avec la crise notamment financière, ils vont être capables de régler ça très rapidement, peut-être plus rapidement que nous, mais enfin ils vont être capables de le régler très rapidement. Et les Chinois ne vont, si vous voulez, en termes de dans les 20 ans qui viennent, on estime qu'en termes de parité de pouvoir d'achat, les Chinois n'arriveraient qu'à peu près 25% de ce que l'Amérique est capable de...
Dans les 20 ans.
Oui, dans les 20 ans. Et l'Inde de l'ordre de 15%. Alors là où c'est déstabilisant, c'est au travers de...
Des flux financiers.
Des flux financiers. Alors,
parce qu'ils deviennent riches de l'argent quand même qu'ils ont et des réserves de change considérables qui leur permettent finalement d'abord, d'acheter un pays quasiment.
Oui, enfin ils sont riches de, du transfert... Du transfert d'initiative qu'on a généré chez eux, puisque toutes nos productions, plus personne n'a envie de produire dans nos pays. Il faut voir que la création de richesse aux États-Unis comme chez nous en Europe est à 75% assise uniquement sur de la consommation et des services, et de moins en moins sur de la production. Mmh. Donc tout ce qui est laborieux, au sens de ce qui a fait notre fortune à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ce qui a été du reste à l'origine de nos confrontations fratricides entre grandes familles européennes et maîtres des forges qui étaient derrière les bourgeois qui déclinaient justement ces logiques de puissance. Bon, tout ce qui a fait notre fortune, finalement, nous l'avons délocalisé dans ces pays-là pour rechercher du moindre coût, un maximum de productivité, et puis surtout beaucoup plus de gamme, de choix, de produits, etc. Ce qui fait que quand vous allez chercher une paire de baskets aujourd'hui, vous rentrez dans un magasin, vous en avez 60 et vous savez plus comment choisir. Mais par contre, ces produits sont en effet à très bas coût et très accessibles en termes de consommation. Donc nous, notre richesse aujourd'hui, c'est de savoir consommer et de bien vivre, hein, donc toute la notion de service, etc. Donc tout ça s'est transféré chez eux et ils sont en train de récupérer du cash par ou de la liquidité, si vous voulez, par pardon, français, surtout sur Radio Courtoisie, et ils récupèrent donc une marge de manœuvre, une liquidité importante, du fait des achats que nous effectuons chez eux, quoi. Et cette liquidité, aujourd'hui, au lieu de la réinvestir dans de la consommation, ça c'est ce qui, à mon avis, est extrêmement intéressant dans ce qui se passe sur la Chine et l'Inde. Et contrairement à ce que pensaient nos économistes, ils pensaient qu'ils allaient, en effet, tout cet argent qu'ils allaient gagner, ils allaient réinvestir dans la consommation. Non, ils ne réinvestissent pas dans la consommation, ils la réinvestissent tout court.
Tout court, oui.
Tout court.
C'est de l'épargne nette.
C'est de l'épargne nette. Et c'est là où, en effet, ça change un petit peu la donne au niveau international, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les fonds souverains, c'est-à-dire où les réserves...
référence aussi dans mon propos à cela.
Réserves de change, par exemple, qui sont en train de monter en puissance du côté de... Là, on parle beaucoup de la Chine, mais il y a Singapour aussi. Et puis, il y a ce qui se passe du côté des grands producteurs de pétrole, avec Dubaï, avec les Russes et autres. Bon, c'est vrai que là, ils ont une force de frappe. Au-delà de la marge de manœuvre, ils ont une force de frappe qui fait que sur certains critères, notamment les problèmes d'approvisionnement de matières premières, mais même plus que ça, enfin je veux dire aussi une seconde vague d'investissement qui touche aujourd'hui les réseaux commerciaux, l'appui aux réseaux commerciaux, c'est-à-dire la diaspora chinoise ou la diaspora indienne qu'on retrouve sur tous les continents et qui sert de bras actifs à l'expansionnisme de ces deux pays, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut s'interroger sur notre capacité de résistance à ces flux. On peut s'interroger.
Parce que ils peuvent très bien, parce que la richesse, ça se produit pas seulement, s'achète.
Ça s'achète.
Et si on achète.
Si on a des faiblesses chez nous, elle est plus facile à acheter.
Elle est d'autant plus facile à acheter. Et si de toute façon on a de telles réserves de change et d'épargne que l'on peut s'acheter des entreprises, eh bien on est comme le retraité californien grâce à ses fonds de pension, on vit de ses rentes.
Oui, sauf que le retraité californien ou à Miami va être dans une logique jouissive. C'est-à-dire qu'il va profiter de ses rentes et il va consommer.
Oui, alors mais il en a au moins les moyens, oui, c'est déjà ça.
Oui, il a largement les moyens.
C'est plus forcément notre cas en France, mais on y viendra.
Oui, je pense que la résistance de l'Europe, et notamment de la France, vis-à-vis de ces mouvements de fonds que l'on évoque, notamment en provenance de la Chine et de l'Inde, sont plus faibles que les Américains. Les Américains ont des capacités d'ajustement, soit par le marché, soit par l'intervention étatique, qui sont beaucoup plus explicites et beaucoup plus claires que ce que nous utilisons en Europe. Et on le voit bien, par exemple, sur le terrain africain, qui est un terrain de confrontation laboratoire. Les Chinois, aujourd'hui, arrivent sur ce terrain-là. Ils sont en train de ramasser la mise. Mmh. Ils sont en train de nous mettre, nous, les Européens, dehors. Même si Angela Merkel, aujourd'hui, a un petit peu repris, lors de sa présidence, un peu repris le manche, et a réaffirmé l'ambition de l'Europe sur ce continent.
D'où ma question que je repose d'une autre façon. C'est certes 25% à 20 ans de la richesse nette des Américains, sauf s'ils l'achètent, cette richesse. C'est là où je partageais assez cette vision selon laquelle il y avait quand même le poids de la Chine, du passé, de ce qu'elle est, de sa masse, qu'avant qu'elle devienne quelque chose d'aussi réactif que peuvent être les États-Unis, qui en plus ont la réactivité et la masse critique avec 300 millions d'habitants. Mais cette question des transferts de flux financiers me laisse à penser qu'ils vont peut-être avoir les moyens de s'acheter cette puissance et cette prospérité. Et là, la vraie question demain, c'est serons-nous prêts à être au service de ceux qui ont le capital ?
Je crois qu'il y a deux réponses. La première, il y a en effet la relation entre la Chine et les États-Unis. Là, on est dans une relation, je préfère le terme anglais, qui est le terme de leadership. Aujourd'hui, on voit bien que ces deux géants se font face
qui cherchent la
de part et d'autre du Pacifique. Ils dépendent l'un de l'autre parce que la croissance chinoise est tirée par la locomotive américaine. Cette locomotive américaine ne peut pas fonctionner sans une subtile alliance, notamment sur le plan financier, avec la Chine. Et le dollar et le renminbi n'ont pas tellement intérêt à être réévalués aujourd'hui, puisque les deux, dans ce rapport de force qui est en train de se situer sur le Pacifique, où se situe quand même près de 60% des échanges mondiaux, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était sur l'Atlantique Nord, essentiellement, que s'effectuaient les échanges commerciaux. Aujourd'hui, c'est en train de se faire sur le Pacifique. Voir que simplement pour vous donner un ordre d'idée, la croissance sur uniquement les biens de consommation, au niveau du commerce mondial, produit par la Chine et distribué par la Chine, c'est plus 35% par an au niveau du commerce mondial. Ce qui vous donne des courbes sur le trafic, par exemple, maritime, absolument hallucinant. Sur la construction des ports, par exemple, sur les rives du Pacifique, que nos auditeurs ne peuvent pas imaginer. Enfin, il y a des ports qui sont en train d'être créés, qui vont faire deux fois la taille de Rotterdam, etc., dans les 10-15 ans qui viennent.
Donc, on est
sur des mouvements de fonds quand même qui sont colossaux. Donc, il y a ce premier niveau, je dirais, d'affrontement, et qui là se situe vraiment sur des dimensions où on va au-delà le commercial, on va au-delà le financier, et on est aussi dans le diplomatique et le militaire. Parce que là, on est vraiment sur deux logiques impériales qui sont en train de caler, je dirais, un rapport de force qui va se clarifier, à mon avis, après les Jeux Olympiques de Pékin. On sent bien qu'en ce moment les deux acteurs sont en train de se mesurer et on est en train de monter en puissance. Et puis il y a un deuxième niveau de rapport de force que je voudrais évoquer, qui est celui de ce vieux monde ou cet ancien monde de l'OCDE et ce nouveau monde qu'on appelle les émergents, et que alors nos experts ont réduit dans un acronyme qui s'appelle les BRIC.
Oui,
Brésil, Russie, Inde et Chine. Et quand on regarde aujourd'hui les populations qui commencent à rentrer un petit peu dans les mêmes protocoles, de modernité, d'éducation, d'ingénierie, etc., que sont les nôtres et qui nous ont assuré au cours des 3-4 derniers siècles cette domination que nous avons eue sur le monde. Parce qu'il faut même pas oublier que moins de 10% de la population mondiale a maîtrisé 85% de la richesse mondiale pendant quasiment deux siècles et que nous sommes issus de cette dynamique-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce que nous sommes en train de régresser en part marginale. On n'est plus que de l'ordre de 55-57% de la création de richesse du monde et on estime qu'à 2020-2030, on sera plus qu'à 40%. Et que ces pays dits émergents seraient l'autre 40%.
Voilà, et les 10 à 20, c'est le reste du vaste monde.
Qui n'a pas progressé depuis la fin du 19e siècle. Il faut savoir même qu'à la fin du 19e siècle, le reste de ce monde profiter plus de la modernité qu'ils en profitent aujourd'hui. Je pense notamment à l'Afrique.
Oui, notamment à l'Afrique, mais beaucoup d'Africains en sont conscients et le disent.
Et quand vous faites coexister ces deux univers, la vieille OCDE, on est autour des 800 millions d'habitants. Union européenne, continent nord-américain, etc. Et quand vous regardez...
En Russie.
Russie qui est en décroissance démographique, voire en déclin démographique. Et quand vous regardez l'ensemble de ces espaces émergents, les BRIC, on estime qu'on serait autour de 600 à 800 millions de personnes à horizon 2015-2020 qui seront grosso modo dans les mêmes types de protocoles que nous. C'est-à-dire que là, on ne sera pas simplement que dans de la fabrication au travers des délocalisations d'une certaine liquidité qui à la marge nous ennuie.
Non,
ce sont des gens qui seront éduqués, ce sont des gens qui seront capables de pouvoir s'affirmer sur des champs que nous avons toujours eu à contrôler jusqu'à présent.
En gros, 800 millions, ça veut dire 300 millions en Chine, 300 millions en Inde, 50 millions au Brésil, 50 millions en Russie.
À peu près.
Et ça, ce seront en quelque sorte nos homologues de la modernité.
Oui, sauf que ils auront capté entre-temps une liquidité que nous n'avons plus.
C'est une de mes inquiétudes.
Je la partage.
je
suis même exprimé pas mal là-dessus, même si nos dirigeants ne veulent pas de temps à autre écouter les quelques alertes que l'on peut leur signifier ou leur indiquer. Mais je pense que si vous voulez, nos vieux pays de l'OCDE, avec une différence très que je fais entre les États-Unis et la vieille Europe, parce qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques de solvabilité. C'est pas du tout
ni sur la perception des enjeux de pouvoir ni de la volonté d'y répondre.
C'est pour ça qu'on n'est pas sur les mêmes logiques de solvabilité entre les États-Unis et l'Europe. Je pense que l'Europe a fait un abandon de puissance depuis très longtemps, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et encore plus derrière ce qu'on appelle la décolonisation. Et que nous ne sommes plus qu'une petite union douanière qui se raconte beaucoup d'histoires, enfin qui fait beaucoup d'effets de manche, alors que les États-Unis n'ont pas encore perdu ce sens de la puissance.
Oui. Et puis cette volonté très très simple, très très saine peut-être aussi, je ne sais pas, de dire qu'on progresse, que le futur est devant nous.
L'Amérique n'est pas un vieux pays, hein. L'Amérique, notamment les États-Unis, c'est quand même un pays qui est encore qui est jeune. Enfin, on a tendance à le mettre dans la même historicité que celle de la vieille Europe. L'Amérique n'a pas fini de nous surprendre et, à mon avis, de générer des initiatives encore audacieuses. Je pense que dans les 2-3 décennies qui viennent, on risque d'avoir encore quelques surprises d'affirmation de
la puissance,
l'autorité,
et du génie,
l'ambition et le génie américain. Donc là-dessus, tous ceux qui pensent que les États-Unis sont... Il faut faire l'effet miroir de l'effondrement de l'Union soviétique et donc obtenir l'effondrement des États-Unis, enfin de et puis permettre par ce biais-là une réémergence en douceur de l'Union européenne, enfin de ce qu'on appelle le continent européen. Je pense que tout ça, c'est bon, c'est du délire intellectuel.
Oui, oui, là, c'est pas d'actualité encore. Seuls les Européens répondront à la question de savoir ce qu'ils veulent faire de l'Europe.
Non, mais l'Europe n'a aucune ambition aujourd'hui. On n'a pas d'ambition sur le plan diplomatique, on n'a pas d'ambition sur le plan militaire, on en a encore moins sur le plan politique. Je dirais le petit traité de Lisbonne, c'est une peau de chagrin en termes d'ambition politique. C'est mieux que rien, mais c'est une peau de chagrin. Et puis même sur le plan de notre assurance vie sur le moyen terme. Enfin, je veux dire, quand vous regardez, par exemple, en termes de recherche et développement, en termes éducatifs, etc. Le niveau d'investissement que l'on consent pour aller sur ces voies qui sont les voies du futur, on est ridicule. On est ridicule par rapport aux États-Unis. On est ridicule par rapport même à l'Asie aujourd'hui. Donc on n'a pas. Enfin moi mon sentiment c'est que la vieille Europe n'a pas envie. La plus
oui,
envie d'être là. Alors on raconte beaucoup d'histoires sur on fait beaucoup d'effets de langage comme ça pour dire que ben oui on est présent, qu'on est là, qu'on y pense, que mais on n'est pas dans l'action.
C'est vrai que l'Europe me fait vraiment penser à certaines personnes âgées en fin de vie qui bon voilà ben, elles font plus rien et quand elles font quelque chose c'est une bêtise.
De toute façon l'Europe est une réserve de personnes âgées. Il faut bien s'en rendre compte. Au niveau de la démographie mondiale, c'est une des zones qui est parmi les plus critiques.
Une réserve.
Non, avec la Russie et le Japon, ce sont les trois régions du monde qui sont les plus critiques en termes de vieillissement de la population et de non-renouvellement
Ça fait partie des grandes questions qui structurent les interrogations hein, sur notre monde et notre avenir. Je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie que j'ai le plaisir de recevoir Xavier Guillou avec qui nous entretenons de l'état du monde, de ses espoirs mais aussi de ses menaces. Je vais donner la parole aux auditeurs dans des questions peut-être aussi variées que notre ou des remarques aussi variées que notre propos. Un auditeur nous dit que sont confondus dans cette émission les constats économiques qui suggèrent des analyses et la prospective économique qui sous-tend une vision de l'économie autre que celle des faillites économiques que nous offrent les États-Unis. Votre analyse en ignorant la prospective ne fait que relativiser les crises et vous rentrez dans le relativisme économique. Un message d'une auditrice. L'idéologie communiste a été remplacée par l'Union européenne qui détruit les États dans toute leur substance et leurs valeurs. Une auditrice. La France est en mauvaise situation. Sarkozy m'affole, il nous précipite encore plus bas. De plus, 6 milliards d'hommes, cela fait peur en raison de l'irresponsabilité des gouvernements. Une auditrice encore. S'il y a montée en puissance de l'Inde et de la Chine, c'est bien parce que l'Union européenne a procédé à l'affaiblissement de chacun de ses États qui la composent. Un auditeur. 1909, 1989, 1889. Je vous invite à remonter jusqu'à 1789 pour comparer le monde d'avant et celui d'après. En effet, selon une ritournelle à laquelle on ne peut échapper aujourd'hui, l'état du monde ne peut que s'améliorer à partir de la Révolution française. Sujet, eau et immigration. Comment voyez-vous s'imbriquer dans la géopolitique mondiale future les problèmes de l'eau et les nouvelles vagues massives d'immigration des pays du Sud vers l'Europe et autres prévues pour les décennies à venir? Et enfin, un auditeur, sujet, modernité, tout cela vient par email, hein, donc c'est par courriel. Est-ce pour vous la modernité entre guillemets, le modèle et l'horizon suprême et indépassable de l'humanité? N'est-ce pas plutôt, en tant qu'idéal, idéologie, voire métaphysique universelle et obligatoire, la racine même de la perversion historique institutionnalisée, qui est la mère des grands drames européens du XXe siècle et du mondialisme néoconservateur actuel? Bon, j'ai laissé la question la plus philosophico-politique pour la fin. Vaste question, oui, mais je vous laisse réagir sur la variété des remarques ou des questions de nos auditeurs qui, je crois, permettent, surtout pour les dernières, d'entamer la seconde partie de notre émission.
Mais je crois que la dernière et la première sont très intéressantes parce que je crois que la vraie question tourne autour de cette affaire de la modernité. Je suis assez d'accord avec l'auditeur. Je pense que nous subissons une idéologie depuis trois quatre siècles, on parle de 1789, qui piège un petit peu notre perception de la réalité et du coup qui sur l'analyse économique ou sur l'analyse géopolitique voire même sur les prospectives engendre des biais qui peuvent être dommageables au niveau de la réflexion. Alors je m'explique. Quand je travaille sur la gestion des crises, j'essaye d'abord d'essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit à chaque fois, donc d'aller sur le fond de la question et pas d'aller uniquement sur les quelques faits ou événements que l'on peut avoir à traiter, et j'essaye de repérer un petit peu où sont les pièges. Et je me suis aperçu que au cours de ces 15-20 dernières années, une grande partie des pièges étaient dans nos croyances, dans nos idéologies, dans nos modes de représentation. Et alors, vis-à-vis de la vie internationale, je suis absolument frappé par, au travers de tous les grands instituts que je peux fréquenter ici ou là, par cette vision de l'histoire qui consiste à installer, je veux dire, tout le cheminement de cette humanité derrière une vision uniquement économique et scientifique, et voire mathématique, hein, avec des cycles. Hein, bon, il y a toutes les analyses que l'on connaît, celle de Chondriatrieff, etc., et où on aurait une forme de déterminisme de l'histoire avec des cycles. Hein, dans chaque cycle, il y a un leader qui émerge essentiellement pour avoir su maîtriser dans les facteurs de pouvoir et de puissance la dynamique économique qui lui permet d'avoir la ressource pour dominer les autres. Et que tout ça est inscrit dans un continuum. Hein, donc on est passé d'un centre de gravité qui était plutôt autour de la France et de la Méditerranée, après à l'Angleterre, après à l'Allemagne, puis ensuite transféré sur le continent nord-américain, etc.
Ex-post, et c'est une analyse qui fonctionne toujours.
Voilà, et donc tout ça avec des cycles qui sont, chaque fois que donc le leader du cycle commence à s'affaiblir, eh bien on va vers une crise majeure. La crise est salutaire, les banquiers, les assureurs, les financiers vivent de ça, ils en vivent bien en ce moment,
quoi qu'on en dise,
ils en vivent très bien, ils adorent les périodes de crash comme ça, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleures opérations, y compris les rachats de banque avec l'argent des autres. Enfin bon. Et puis donc, il y a un nouveau cycle qui s'installe, etc. Et donc,
dialectique de l'histoire.
Voilà, dialectique de l'histoire. Donc, quand par exemple, je lis le livre qui a été fait, Le Monde en 2025, au niveau de la Commission européenne, etc. Donc, la prochaine étape, c'est l'effondrement des États-Unis. Donc du modèle bipolaire, et c'est l'Europe qui devient le moteur du monde, etc., etc.
Pourquoi pas
et tout le monde fuit cette locomotive, etc. Moi, je pense que, par rapport justement à ces deux questions, je pense que nous sommes piégés par cette vision de la modernité et que cette modernité, pour moi, elle est quand même très restrictive, elle est uniquement sur le champ du matériel, sur le champ de la transformation de biens et de marchandises, et puis sur la capacité de distribuer
et de profiter du bien-être.
Du reste, voilà. J'avais noté en introduction à votre première question que on parlait de PIB, puis après on a parlé de PNB, et maintenant le PNB on est en train de le transformer, c'est plus de la production nationale brute, mais on cherche à mesurer la production nationale de bonheur. Vous allez dans des dictionnaires sur internet, Wikipédia et autres, et vous avez des démonstrations qui sont assez pathétiques dans ce domaine-là. Mais c'est un bonheur qui est uniquement matériel et qui ne fait pas sens pour tout le monde. Et c'est là où je pense que dans la prospective, et quand je lis par exemple ce remarquable travail de prospective qui a été fait, Le Monde en 2025, préfacé par l'ami, le postulat de départ, c'est on continue dans une logique de stabilité. On va maîtriser les crises, on va maîtriser ces cycles, on va introduire un nouveau type de leadership, et derrière, eh bien, on va pouvoir continuer dans cette affirmation de cette modernité matérialiste, scientifique, avec un modèle, je dirais, de partage du pouvoir, de type démocratique, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ferait bien de réfléchir à des accidents majeurs, voire des ruptures fondamentales. Et je pense que cette modernité n'est pas forcément partagée par l'ensemble du monde. Je voyage énormément. Et je vois bien que la plupart des pays du monde récupèrent ce qui les intéresse dans cette modernité sur le plan matériel, mais pas forcément sur le plan spirituel, pas forcément sur le plan, je dirais, de existentiel, pas forcément sur le plan philosophique, etc. Et que ce sont sur ces champs-là que sont en train aujourd'hui d'émerger soit des radicalisations de position, je pense notamment à la relation avec l'islam, ou soit des biais d'expression du pouvoir et de la puissance. Et je pense à ce qui se passe avec la Chine et avec l'Inde, qui n'ont pas envie de passer peut-être par un affrontement frontal, dirais brutal, ou voire direct ou explicite, mais qui passent par d'autres méthodes et qui aujourd'hui ont décidé de ne pas respecter cette symétrie qu'on a essayé d'imposer, ou cet ordonnancement qu'on a.
Ça veut dire qu'ils trichent dans les relations internationales, dans le commerce.
Ils ne trichent pas, ils inventent autre chose, ou ils procèdent d'une autre manière.
Par exemple.
Alors, quand vous êtes, par exemple, puisqu'on est sur ce champ de l'économique, quand vous êtes en Afrique, nous, on va édicter, enfin, on va toujours être dans, la fabrication de cet ordre mondial que l'on appelle de tous nos voeux depuis la chute du mur de Berlin, qu'on voit pas arriver. Et donc on va utiliser tous les.
On nous a pas dit pourquoi l'ordre était mieux que le désordre. Non, il faudrait peut-être déjà.
Mais ça fait partie de cet univers mental.
Hein.
Oui, mais ça fait partie de cette idéologie qui et que vous retrouvez déclinée, c'est parce qu'on pourrait dans par exemple dans la crise du subprime, vous la retrouvez déclinée dans les modèles mathématiques qui sont à l'origine de cette crise et pas uniquement de cette crise-là, d'autres crises qui sont intervenues où on évacue toute possibilité de risque non maîtrisé. Hein. Donc on fonctionne en
avec
système
l'esprit
stable.
bien européen, bien occidental, bien cartésien.
En partant du postulat de base que de toute façon tout ce qui a été inventé depuis 1789 est irréversible.
Mais c'est intéressant, et je termine sur cette parenthèse parce que je veux vraiment vous poser la question sur des exemples de ces ruptures et telles que la pratique des pays émergents comme la Chine ou l'Inde. On a l'impression que les Européens ont rejeté ce qu'il y avait de bon à garder dans l'Occident, hein, dans le système de pensée et de croyance occidentale, et qu'ils en ont gardé les travers.
Parce que, je veux dire,
c'est la marque des peuples et des civilisations en déclin.
Oui, mais ce déclin, il est en grande partie lié à une forme de déshumanisation de notre façon de vivre. D'abord notre vie au quotidien, mais aussi notre relation au monde. Et on part du principe que nos modèles mathématiques, nos logiciels, nos processus, nos procédures, etc., suffisent en tant que tels, et que l'ensemble du monde va se caler derrière ces vues de l'esprit. Quand vous êtes, par exemple, parce que on parlait du continent américain, mais je pourrais vous emmener sur le continent austral ou sur l'Amérique latine, etc., et que vous voyez, par exemple, les Chinois aujourd'hui œuvrer. Eh bien, c'est pas compliqué. Eux, ils vont pas passer par cet ordonnancement ou par cette vision très ordonnée, très structurée des rapports de pouvoir, etc.
Et là, vous répondez à la question, quel exemple de rupture?
Oui, tout à fait. Donc, ils vont pas aller demander la permission à l'ONU ou à l'Union Européenne ou à ce nombre de grandes instances. Ils vont pas respecter forcément. Ils vont signer les accords de l'OMC, mais ils vont pas les respecter. Ils en ont rien à faire. Mais rien à faire. Et puis même s'il peut y avoir amnestation par exemple du FMI ou de la Banque mondiale sur certaines pratiques qu'il peut avoir sur le terrain, bon bah ils font un sourire parce que ça leur plaît pas qu'on les critique, mais ils sont sur autre chose. Ils arrivent avec leur bateau, ce sont des actions par le bas, pas par le haut. Ils arrivent avec leur bateau. Je dirais, au cul du bateau, sur la rampe, ils commencent déjà à négocier sur le quai. Ils prennent le contrôle d'entrepôts, puis après ils vont prendre le contrôle avec leur réseau de commerçants. Ils vont prendre le contrôle d'un carrefour, puis du carrefour ils vont prendre le contrôle du quartier. Dans le quartier, ils vont repérer ceux qui sont un peu dominants. Ils vont leur financer des études, y compris dans nos pays. ou dans des pays comme les États-Unis et autres, pour être encore plus dominants. Et à partir de ça, ils construisent un nouveau modèle de domination du terrain et des structures sociales en ascendant.
Et par exemple, c'est comme ça que cela se passe aujourd'hui en Afrique, avec la Chine.
Et vous arrivez à ce qu'on connaît par exemple déjà. Enfin, il suffit d'aller en Indonésie et vous verrez déjà comment le modèle fonctionne. En Indonésie, vous avez à peine 10% de la population qui est chinoise, hein, dont beaucoup sont du reste catholiques. Hein, et c'est eux qui contrôlent 90% de l'économique. Et ils contrôlent quasiment l'essentiel de la vie politique indonésienne. Ils ne sont pas uniquement dans le champ de l'économique. Et donc, si vous voulez, ils n'ont pas du tout l'intention de respecter nos préséances et notre façon d'administrer le monde.
Eux, ils avancent et ils avancent à la base.
Et ils avancent en infiltrant par la base, en créant des capillarités, des réseaux et des structures qui tiennent le terrain, un petit peu, vous savez, comme des plantes rasantes là qui vous tiennent
le
terrain,
montagne.
Quoi qu'il arrive. Et puis progressivement, ils prennent le pouvoir et le contrôle. Donc ça vous génère derrière des changements dans les rapports de force qui sont considérables. Alors là, je parle des Chinois, mais je pourrais vous parler de ce qui se passe aussi au travers de l'islam, sur par exemple les réseaux islamiques sur l'ensemble du Sahel, au Pakistan ou au Proche-Moyen-Orient.
Là, je pense que c'est une question de fond parce qu'aujourd'hui,
voire même par exemple sur l'Indonésie, puisqu'on parle d'Indonésie, oui. Quand vous regardez le rapport entre ces dominants chinois et les réseaux islamiques qui sont en train de monter, de aussi de revendiquer une part du pouvoir. Nos petits modèles occidentaux au milieu de tout ça, certes, on se retrouve tous dans les beaux hôtels de Jakarta,
mais c'est pas là où ça se passe quand même.
C'est pas là où ça se passe.
C'est plus là où ça se passe. Alors justement, sur l'islam, je crois qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une forme de concurrence entre justement une certaine modernité ou occidentalisation dont il ne nous appartient pas de porter un jugement de valeur, mais qui fait évoluer ces populations, et de l'autre, une radicalisation qui ne les emmène pas au Moyen-Âge, ce serait péjoratif pour le Moyen-Âge, mais qui les emmène ailleurs, en fait, complètement ailleurs. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de concurrence, hein, de course qui est lancée. Et suivant celui qui gagne, eh bien la face du monde, ou en tout cas notamment de notre proche voisinage, puisque une partie de tout cela se passe quand même dans l'univers méditerranéen, risque de changer. Et là,
très rapidement, c'est une affaire de 10 ans, c'est pas une affaire de 50 ans.
C'est-à-dire. Est-ce que c'est vrai déjà cette analyse entre modernité et ailleurs, et radicalisation. Enfin, je sais pas quel terme employer pour qu'il ne soit pas trop contrôlé.
Qu'on tombe pas non plus dans
ce qu'on lit trop souvent.
Oui, dans une imagerie qui voilà. Non, je dirais que d'abord au sein de l'islam a connu dans son histoire une certaine modernité, au travers des sciences, des lettres, de l'architecture, de la médecine, etc., s'est exprimé, et bien avant notre modernité à nous. Dite européenne et occidentale, au moment dit de la Renaissance. Enfin, la Renaissance est un terme que les historiens ont donné à cette époque-là, tardivement. Enfin, je veux dire, les gens qui ont vécu la Renaissance ne savaient pas qu'ils étaient en Renaissance. C'est toujours très amusant dans l'histoire de voir que on a tendance à confondre ce que des historiens ont mentionné cinq siècles après
et la
perception du réel.
Mais
l'islam a connu des très très grandes périodes qui ont aussi été en même temps des périodes, brutales sur le plan militaire, diplomatique et politique. Quand on reprend l'histoire des grands califats, elle était certes très prospère sur le champ de l'intellect, mais en même temps elle était assez dur sur le plan, de l'affirmation du politique et de la domination des différentes dynasties.
Et alors aujourd'hui,
vous avez des dirigeants je pense notamment au monde, à l'islam arabe, parce qu'il y a l'islam asiatique qui est encore autre chose. L'islam arabe, vous avez des dirigeants, notamment comme les jeunes émirs qu'on trouve dans le Golfe, Dubaï, Oman, Bahreïn, Koweït, ou même par exemple un jeune dirigeant comme le roi de Jordanie, d'autres qui sont dans le monde du Maghreb, qui sont pas dans le Maghreb, mais qui sont dans le Maghreb, comme par exemple le roi du Maroc, etc., qui sont pour un retour à cet islam éclairé. Un islam éclairé, avec dans cette vision d'une certaine modernité, à la fois un équilibre entre la spiritualité et puis une approche de la maîtrise de la matière, etc. Bon. Et puis vous avez un autre islam qui est plus confus et plus dur. Il y a celui qui est porté par les Wahhabites en Arabie Saoudite, qui est un islam très rustre. Ils estiment qu'ils reviennent aux sources de ce que devrait être la lecture de la Sunna telle qu'elle a été écrite par le prophète. Enfin, c'est une vision très très bédouine, je dirais, de la Sunna.
Et puis,
il y en a une autre qui est plus dangereuse encore pour nous, qui est celle qu'on voit au travers des frères musulmans ou d'autres, qui est un retour d'une certaine lecture rigoureuse de la Sunna, mais appliquée et préalable d'une maîtrise de la modernité, et je pense notamment à ce qui se passe en Égypte avec les frères musulmans. Là, la confrontation, et je vais prendre un exemple, parce que je crois que pour les auditeurs, c'est plus simple de rentrer par un exemple qui pourront évaluer d'eux-mêmes si jamais ils vont dans ce pays-là. Moi, il y a un pays que j'aime beaucoup qui s'appelle le Maroc, que je connais bien, très bien même. Et je vois ce pays être à la jonction de ces deux grands mouvements qui aujourd'hui agitent l'islam. D'abord, c'est un pays qui s'est tourné vers cette recherche de modernité un peu éclairée, comme ils disent. Et donc, il y a tous les fonds de Dubaï, il y a tous ces jeunes dirigeants du monde arabe qui apportent leur soutien pour le développement du Maroc. Et donc, vous avez toute la classe moyenne, une classe moyenne qui est en train d'émerger très forte, et qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent avec les centres d'appel délocalisés de nos grands opérateurs, qui font dans l'immobilier, dans tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine-là. Et puis, vous avez une autre réalité que vous pouvez côtoyer dans la banlieue de Kaza, de Meknès, de Fès, voire de Marrakech, quand on va au-delà les riades des Occidentaux, fréquentés par les Occidentaux, ou toute la jet européenne. Et là, vous avez des migrations de population qui viennent de la campagne, voire qui sont eux aussi un peu bousculés par les migrations africaines, et qui sont pris en main. Parce, d'abord, vous avez des populations qui sont analphabètes, qui ne parlent pas forcément l'arabe, au sens où les bourgeois, les habitants de la ville le maîtrisent, sont pris en main par tout un tas de caïds plus ou moins bien intentionnés, et dont une partie aujourd'hui est soutenue, financée par des réseaux qui passent par les Wahhabites et qui sont eux-mêmes extrêmement offensifs sur toute la zone sahélienne de l'Afrique, toute cette zone sahélienne qui est bien pénétrée aujourd'hui et qui vise à déstabiliser
Donc en gros, vous dites que le pétrole finance à la fois la modernité et l'islamisme,
oui.
Puisque finalement ces fonds viennent de même endroit.
Vous savez, l'Arabie Saoudite est un pays très compliqué, dans le sens où
pétrole en général. On peut.
Ah oui, exactement. Le pétrole en général finance les deux dimensions.
Bah oui, puisque vous dites qu'au Maroc, il y a le financement wahhabite vis-à-vis de ces réseaux, disons-le, islamistes, de prise de contrôle de la base, et de l'autre côté, quasiment à 100 km d'un autre puits de pétrole, autre réalité politique qui va financer la bourgeoisie éclairée en train de monter.
Voilà, et la course de vitesse, elle est entre,
Alors, qui va gagner
Moi, je vais vous donner mon analyse personnelle. Je pense que aujourd'hui, cette bourgeoisie éclairée doit faire très attention. Elle doit faire très attention parce que elle gagne beaucoup d'argent, et la tentation, c'est de faire dans de la spéculation non régulée, non maîtrisée, effrénée. On voit ce que ça donne avec les subprimes. On voit ce que donnent les bulles spéculatives en général. C'est une spéculation, il faut savoir la maîtriser et il faut savoir l'arrêter. Or là, s'ils continuent comme ça et qu'ils ne prennent pas une partie de cet argent pour pouvoir l'investir dans l'éducatif et dans l'accompagnement de ces populations, eh bien, ils auront des beaux immeubles, ils auront des beaux riads, ils auront des beaux actifs qui ne vaudront rien dans 10 ans, parce que dans 10 ans, c'est un pouvoir islamique qui se sera installé à la place. Et je pense qu'on a suffisamment de signaux qui ont émergé sur le terrain au cours de ces 3-4 dernières années pour ne pas les sous-estimer, avec notamment chez les jeunes de tous ces pays du Maghreb, une adhésion plus ou moins explicite, mais même une adhérence assez forte au message que portent certains islamistes, par rapport, je dirais, aux logiques spéculatives que certains dirigeants pourraient porter. Et je pense qu'on est sur une lame de rasoir et qu'il faut faire très attention. Parce que sur une affaire, par exemple, comme un pays comme le Maroc, il faut savoir que le roi du Maroc est une puissance intemporelle très importante au sein de l'islam, puisqu'il est commandant des croyants, qu'il descend de par sa famille, ses racines alaouites, directement du prophète, et qu'il est le grand patron de tout un rite qui est le rite malékite, rite malékite qui notamment dominait sur cette zone sahélienne et qui aujourd'hui régresse du fait de la pression wahhabite que l'on voit s'exprimer très fortement au Soudan, en Somalie, etc. et qui aujourd'hui va jusque sur les rivages du Sénégal et a réussi à obtenir des mutations dans les mouvements dits de résistance aux États. Pour les amener à adhérer, c'est pour ça que je parle de ces adhérences, à une pensée qui est celle de Ben Laden ou des mouvements Al-Qaïda et compagnie. Enfin, tous les GSPC et compagnie qui ont muté sur l'ensemble de ce Maghreb, ça s'est fait très rapidement l'espace de 18 mois, ces 18 derniers mois, et on voit bien aujourd'hui que la pression est en train de s'exercer non pas simplement au niveau de la modernité dont on débat, mais va aussi jusqu'à remettre en cause la légitimité de ce pouvoir intemporel qui est porté par le roi du Maroc. Alors, et ça, c'est très dangereux, parce que si, par exemple, ces réseaux arrivent d'une manière ou d'une autre à éliminer quelqu'un comme le roi du Maroc, à éliminer quelqu'un comme le jeune roi de Jordanie, à éliminer les jeunes princes qui sont, par exemple, aujourd'hui sur les rivages du Golfe, on va vers une situation qui sera de l'ordre de la rupture.
Ah, mais Xavier Guillou, j'ai envie d'être un petit peu provocateur et de vous demander, et imaginons même que ces islamistes prennent le pouvoir au Maroc, et alors, il se sera comme l'Algérie Empire, ils retourneront à la charrette à bras. Qu'est-ce que nous, Français et Européens, ne devons pas avoir plus peur d'un Maroc, d'une économie, voire même d'un islam modernisé, que d'un islam en régression intellectuelle? Je volontairement pousse le raisonnement jusqu'au bout.
Oui, parce que là, c'est toute la relation avec l'islam qu'il faut avoir, mais
même en tant que France, on aura un Maroc dans lequel on enlèvera nos centres d'appel et on les mettra en Tunisie, si ça tient toujours en Tunisie. Mais quel est l'enjeu?
Là-dessus, je vais vous répondre. C'est pareil, il y a deux niveaux d'enjeu. Il y a le premier qui est celui de notre sécurité immédiate. Il y a le second qui est celui de notre dilution dans d'autres modèles de vie et qui est pour moi de l'ordre de plus que du probable, qui est de l'ordre de l'inéluctable sur les 20 ou 30 ans qui viennent. Moi, je raisonne d'abord dans un premier temps, pour ça je vous disais, dans les 10 ans qui viennent, il faut faire très attention, on est sur le fil du rasoir. Si jamais pour une raison ou pour une autre, on est sur des scénarios...
Si on bascule
sur des scénarios très durs, la sécurité de la vieille Europe n'est plus de l'autre côté de la Méditerranée, elle est un quart d'heure de centre de décision. C'est-à-dire que, et je pèse mes mots quand je dis ça, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de banlieues difficiles dans nos... dans toutes nos conurbations européennes, françaises, on les connaît. Paris, les Bruxelles, c'est encore pire que chez nous. Il suffit de regarder ce qui s'est passé sur ce registre-là, notamment en Hollande, voire même en Allemagne, pour ne pas relativiser en la matière. Donc ça veut dire que si jamais, pour une raison ou pour une autre, on a une radicalisation plus affirmé, qui ne se limite pas simplement à l'Algérie, comme on a connu.
Hein. Oui,
L'Algérie a des contenus.
Tout l'arc méditerranéen.
Oui, elle est contenue par les militaires. Là, elle est contenue par le roi, etc. En Tunisie, elle est contenue par Ben Ali qui fait rempart. Donc, si ces dirigeants tombent et que nous avons à la place des régimes islamiques et qu'il y a une certaine convergence dans la dynamique sur l'ensemble du Maghreb, notre sécurité n'est plus de l'autre côté de la Méditerranée, notre sécurité est à un quart d'heure de nos centres de décision.
Parce que vous pensez que ça va faire tâche d'huile.
Elle est dans le 9-3, elle est dans le 9-5, elle est dans les quartiers nord de Marseille, etc., etc., dans la banlieue de Bruxelles, etc.
Mais poussons peut-être alors l'analyse encore
après,
plus loin.
Oui.
Et est-ce que justement, ce ne serait pas un bien si ça se produisait dans les 10 ans, permettant d'avoir une réaction de l'Europe
et c'est autre chose.
Non mais, je pousse le raisonnement. Hein, on est dans des logiques de raisonnement en essayant de regarder tout le champ des possibles.
C'est l'histoire de la grenouille, que vous jetez dans de l'eau tiède ou dans l'eau bouillante.
Et moi, j'ai plutôt l'impression que nous sommes dans une situation où l'eau était froide et devient tiède. Et si elle devenait brûlante, est-ce que ce ne serait pas finalement un bien pour tout le monde d'ailleurs, pour un moment régler le problème avant qu'il devienne quelque chose d'une inextricable catastrophe humaine.
Là, on est dans un scénario qui est le scénario du pire, qu'on ne peut pas du tout gérer, ni évacuer.
Mais pour moi, c'était le moins pire dans le pire. Je sais pas, puisque
pour moi, le scénario le plus dramatique au sens de ce que représentent mes valeurs et au sens de ce pourquoi je me suis battu pendant 30 ans à la fois pour la France et puis pour d'autres dimensions, hein, à la fois culturelles, intellectuelles, et puis spirituelles et autres, ce serait ce que j'appelle le deuxième scénario, qui est le scénario de la dilution. Et ça, ce serait avec un islam éclairé. Et là, avec un islam éclairé, je ne me fais aucune illusion sur le moyen terme, sur les 20-30 ans qui viennent, avec une migration de l'ordre de 1,5 million de personnes par an pour pouvoir tenir, je dirais, le minimum vital dont l'Europe a besoin, parce que nous ne fabriquons que des vieux, donc le renouvellement de population ne se fera que par le biais de la migration. Il est clair que dans les 15-20 ans qui viennent, nous aurons des communautés dans ce domaine-là qui ne resteront pas marginales, qui demanderont à partager le pouvoir et qui nous obligeront à rentrer dans une dilution des valeurs du partage de la richesse et autres. Il suffit de regarder, de lire un article qui a été fait dans le Figaro hier sur la montée de l'islam en Belgique avec une prospective où ce serait la première religion en Belgique d'ici à peu près 15 ans et avec des propos tenus par un certain nombre de dirigeants de cet islam dit éclairé qui sont très clairs à l'instant. Donc j'évacue
ce... Alors que faut-il...
Si jamais on passe
sur le fil du rasoir, quel côté faut-il tomber pour que la situation...
La question qui se pose, c'est que si jamais, par exemple, on a... je suis plutôt dans le domaine de l'interrogation, avec quelques quand même convictions par derrière, mais parce que j'ai vécu Beyrouth, j'ai vécu la Yougoslavie, enfin sur le terrain, sur le plan militaire ou sur le plan diplomatique, donc j'ai vu ce dont était capable l'Europe... et la plupart de nos dirigeants vis-à-vis déjà de situations peut-être plus lointaines mais où déjà quand même le cahier des charges était relativement précis. On a botté en touche, on a joué la complexité au niveau des mandats, des façons de faire, etc. Mais on a toujours refusé de mourir pour ces questions-là. On a toujours refusé de mourir pour ce qui était l'affirmation de notre identité et de nos valeurs par rapport à la montée de ce péril qui semble qui paraît quand même inacceptable. Enfin, la régression de cet islam aujourd'hui paraît quand même assez inacceptable.
Mais en vous entendant,
et aujourd'hui, si jamais pour une raison ou pour une autre on avait des événements majeurs sur l'ensemble de cette zone du Maghreb, parce que je ne parle pas du Maghreb, du Maghreb, je ne suis pas convaincu pour ma part que l'ensemble des pays européens parlerait d'abord d'une seule voix, serait en mesure de pouvoir monter des initiatives ou des actions communes avec le niveau de coercition et de détermination suffisant. Et je suis même pas forcément sûr que nos populations seraient enclintes à accepter de mourir pour clarifier les choses.
Oui, mais Xavier Guillou, tout cela est un petit peu désespérant, puisque d'un côté vous nous dites qu'avec un islam plus éclairé, il y a tout de même un risque de dilution, et de l'autre côté, avec un islam radical, il y a un risque d'embrasement plus immédiat encore.
Oui.
Quelle solution,
Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des dirigeants de ce monde arabes sont en train de mettre toutes les chances de leur côté pour que ce soit plutôt un islam dit éclairé qui prenne dessus sur l'islam régressif. Et de contenir cet islam, cette régression de l'islam plutôt sur le continent africain, voire sous le sous-continent indien. Avec quand même des hypothèses de travail qui sont pas du tout qui sont très ouvertes. On parle beaucoup de l'Iran, mais enfin un pays comme le Pakistan m'inquiète beaucoup plus que l'Iran du fait de la détention de l'arme nucléaire. Mais je pense que là-dessus, si vous voulez, ils sont conscients de cette échéance et qu'ils sont en train de mettre toutes les chances de leur côté pour aller plutôt vers une maîtrise de cette progression vers la modernité que vers une radicalisation. Et en plus de ça, la plupart des pays, notamment européens, sont en train de mettre des moyens considérables pour aller plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Donc je pense qu'on est beaucoup plus parti pour la grenouille qui nage dans une bassine d'eau tiède et qui va progressivement se faire happer par le système, de diluer dans le système, que vers un affrontement radical. C'est mon analyse actuelle. Sauf si, et là, ce n'est pas improbable, quand on lit les déclarations de M. Ben Laden régulièrement ou d'autres dirigeants comme ceux du Hamas ou de Nasrallah ou d'autres, sauf s'ils décident de casser cette trajectoire et d'enclencher un affrontement, notamment avec la chrétienté, qui soit beaucoup plus radical que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Xavier Guillou, nous avons un certain nombre de messages d'auditeurs que je lis, contrairement à un message qui me disait que je ne les avais pas lus. Nous les essayons de les lire, on ne peut pas tous les lire. Un auditeur nous dit en 2003, un monsieur marocain me disait qu'il était architecte en informatique. Un auditeur, un grand sous-marin, il y a une autre partie de la question, mais je n'arrive pas à la lire, que cet auditeur ne croit pas qu'il y ait une censure. C'est « Bientôt la France sera, je n'arrive pas à lire, selon la volonté du Maroc ». Un auditeur, un grand sous-marin atomique est né, à quoi cela va-t-il servir? Une auditrice, nos dirigeants sont-ils conscients de ce qui nous menace sur notre propre territoire et sur ce qu'il risque malheureusement de nous arriver? Une auditrice, j'admire la lucidité de vos intervenants, mais ne pourrait-on pas faire pression pour avoir, par exemple, une politique valable de la famille? Une auditrice, quels sont les risques des ventes des centrales nucléaires en Méditerranée, par exemple? Et un auditeur, qui termine sur une question qui sera le dernier thème que je souhaite aborder avec vous, Xavier Guillou, c'est « La fin du pétrole va-t-elle redistribuer les cartes ?» Alors je vous propose que l'on réponde aux premières questions et que cette dernière question passionnante de cet auditeur nous serve pour rebondir sur notre dernier thème.
Alors, bon, la conscience de nos dirigeants, j'en côtoie beaucoup. Je crois qu'il y en a pas mal qui commencent à être dans cet exercice de lucidité. C'est une chose d'être lucide. Moi, je l'ai vu au travers de mon dernier livre, quand la France réagira, là, quand j'ai fait ce livre sur la crise française. Donc, on a envoyé à pas mal de dirigeants, on a eu des réactions. Tous sont d'accord sur le diagnostic. Tous sont d'accord sur ce qu'il faut faire. Et puis, ils vous ajoutent Mais ce n'est pas possible, mais c'est trop difficile à faire. Enfin, il y a toujours un mais. Et ce que je pense, c'est que au-delà de le travail de lucidité, il y a cette dimension du courage, et aussi et le courage nous oblige à revenir sur ce qui fait sens. Le mais, généralement, il est toujours lié à cette forme de déshumanisation de notre société, qui est très bureaucratisé, très technocratisé, enfin très soviétisé dans sa tête, notamment la France. Et donc ils sont un peu impuissants face à une espèce d'histoire qui se déroule devant leurs yeux, qu'ils commandent du reste très bien, ou qu'ils essayent de changer par des petites actions, mais ça manque de d'audace et de et je dirais de courage sur des dimensions qui font sens. Là, la petite de la famille fait partie un petit peu de tout ça. Le terrible,
une double question sur le nucléaire les centrales et le
terrible, je pense que on ne peut pas, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir à quoi va servir un sous-marin nucléaire face à ce que j'évoquais sur la Chine ou à ce que j'évoquais par exemple sur cet islam rampant.
C'est le dernier recours.
Enfin, on ne peut pas non plus, on est dans une période transitoire.
Moi ça me paraît important, mais
on a encore quand même un tsar qui a quand même quelques prétentions en Russie, qui a quand même quelques armements de ce côté-là qu'il peut encore utiliser. On a des pays comme le Pakistan qui, si jamais il basculait dans un islamisme dur de type Al-Qaïda ou sous emprise d'Al-Qaïda, eh bien là, il faudrait être capable de pouvoir imprimer ce que l'on est encore, ce qu'on sait faire encore en matière de dissuasion. Puis il y a la Chine, hein. Et la Chine, bon, ce sous-marin est capable de porter des vecteurs à 8000 km. C'est aussi une arme de dissuasion non négligeable par rapport à la Chine.
J'en suis persuadé.
Et donc là-dessus, je veux dire, comme on est dans une situation un petit peu transitoire, ben il faut ça. Et puis il nous faut aussi des forces spéciales, il nous faut aussi des gars qui soient capables d'aller au plus près sur le terrain, au Soudan ou ailleurs. Comme ce jeune sous-officier qui a été malheureusement tué du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, et qui était quelqu'un des forces spéciales et qui a perdu la vie en faisant son métier, je dirais de contact avec ces choses un peu plus perverses. Alors sur le pétrole.
Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et j'espère pouvoir donner aux auditeurs des éclairages intéressants.
Je crois que d'abord, il faut être conscient que ce dernier cycle de la modernité industrielle sur lequel nous tirons toute notre prospérité, notre bien-être, il fonctionne grâce à cette économie pétrolière. Ce sont les combustibles fossiles, hein, essentiellement le pétrole, un peu le gaz, un peu le charbon, qui sont les clés de voûte de ce système-là. Et là, on arrive aujourd'hui en fin de cycle. Hein. On peut encore découvrir énormément on a des réserves qu'on peut mettre en action, etc. Mais ça suppose des niveaux d'investissement qui sont considérables. Investissement que nous n'avons pas fait il y a 10-15 ans parce qu'on s'est vautré dans toutes ces bulles spéculatives immobilières, mobilières et autres. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la Chine, de l'Inde, de tous ces pays émergents, on est en train de faire exploser la courbe offre-demande. Dans cette courbe offre-demande, grosso modo, on est à peu près à 80 millions barils-jour hein, de production. La demande tourne autour de ces chiffres-là, donc on est en situation très tendue. On évalue à peu près, grosso modo, à l'horizon 2030, la demande mondiale, compte tenu des taux de croissance qu'on a aujourd'hui, entre 115 et 120 millions de barils jour.
Et là, or, l'État des capable de les produire.
Non, c'est ça le problème.
Sans même parler des réserves.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de peak oil, c'est-à-dire de croisement de la courbe et de l'offre, de l'offre et de la demande. Donc on a une courbe d'offre qui est en train de chuter et on a une courbe de demande qui est en train d'exploser littéralement. Et il faut qu'on trouve sur les 20-30 ans qui viennent de l'ordre de 50 à 60 millions de barils de jour.
Est-ce qu'on va les trouver ?
Et alors là, on a des inconnus. Vous avez les ingénieurs des mines qui vous disent que partout où on gratte, on trouve quelque chose. Et puis vous avez les experts en pétrole qui vous disent, oui, mais tout ce que l'on vous dit, que vous donne comme information sur les réserves prouvées de pétrole, c'est de l'intox, c'est pas faux. Les bonnes informations, c'est faux. Et donc on est dans une espèce d'étau aujourd'hui, de désinformation ou d'intoxication dans tous les domaines, avec en plus ça des logiques de spéculation sur les marchés au niveau des matières premières qui font que on est plutôt sur des tendances d'abord haussières au niveau des prix, et donc on va sur des des courbes assez
oui mais Xavier Guillou, c'est
200-300 dollars le baril.
Les 200-300 dollars le baril, c'est encore tenable, c'est beaucoup plus cher, c'est très difficile.
Ça nous obligera à faire des arbitrages par rapport à nos fonctionnements au niveau de nos économies.
Mais 1000 ou 1500 dollars le baril, parce que vraiment
à ce moment-là on fera autre chose.
Et là on fera autre chose. Mais est-ce que là dans ce cas-là, il n'y a pas une rupture plus grande que toutes celles
si,
qu'on a évoquées?
C'est la vraie rupture, c'est la vraie rupture. C'est le c'est un changement de modèle et de civilisation.
Et alors, quels sont les comment pour dessiner le monde qui pourrait se profiler là,
par rapport,
là, c'est là où on vous attend.
C'est là où, par rapport aux premières questions qui ont été posées sur la prospective, moi je suis aujourd'hui plutôt je dirais tenant d'une école qui est celle d'un franchissement de seuil majeur avec un changement civilisationnel radical qui va se produire en l'espace de moins d'un demi-siècle. Et je dirais que ce seront ceux qui seront capables de pouvoir faire émerger, non pas simplement la nouvelle économie mondiale, mais les nouvelles logiques existentielles, c'est-à-dire à la fois ce qui fera sens pour des communautés humaines, ce qui permettra à ces communautés humaines de vivre au quotidien. Et là, ça pose tout le problème de quelle source d'énergie sera à la base de notre coexistence ou de notre survivance. Et puis derrière, sur quel type de protocole spirituel, philosophique et même humain nous allons aller. Et c'est là où il y a des révolutions qui sont en train de se passer du côté des il y a des révolutions qui sont en train de se passer sur le champ du terrain existentiel. On le voit bien avec l'islam qui veut ou se rénover ou s'affirmer, une Chine qui veut être un peu partout et a besoin d'être partout pour pouvoir vivre chez elle, a besoin que tous ces réseaux ramènent, je dirais, au-delà de la liquidité, des possibilités pour pouvoir transformer, je dirais, son existence. Mais il y a aussi des choses qui se passent au plan de la science et de la recherche, avec tout ce qui se passe au niveau des nanotechnologies, des biotechnologies, tout ce qui se passe autour de l'informatique du futur, notamment des prochaines générations d'Internet. Le monsieur Internet de l'Élysée va être complètement débordé par ça, parce que, je veux dire, quand vous regardez ce qui se passe sur les prochaines générations de l'Internet et toutes les possibilités de liens d'architecture, parce que quelqu'un parlait d'architecture informatique pour le Maroc, enfin, tous ceux qui vont mettre en place ces nouvelles architectures, ces nouveaux systèmes, je dirais, de liens entre les gens, vont permettre une émulation et des développements d'initiatives dont on sous-estime aujourd'hui les dynamiques. Et je pense que...
Ce qui est pour vous un facteur d'espoir.
Alors, d'espoir sur le plan de la maîtrise du réel et de la matière, parce qu'il y a aussi la maîtrise de la matière qui est un point quand même incontournable, tous les jours produire quelque chose ou transformer quelque chose, mais aussi, je dirais, sur le champ de l'espérance, parce que quand je vois toutes les réflexions qui sont engagées autour des biotechnologies, de la génétique, etc., voire même des nouvelles générations de l'Internet, voire même les questions qui se posent derrière ces radicalisations identitaires, etc., le champ de l'humain revient dans le questionnement. Et ça, pour moi, c'est un grand facteur d'espérance. Et puisque, je dirais, on est dans ce temps de Pâques, vous savez que Pâques, en hébreu, ça veut dire le passage. C'était la fête de Pâques. Enfin, j'ai lu ça ce matin dans un entretien entre dans le Figaro là sur Pâques qui était entre Barbarin et puis un grand rabbin. Je pense que nous sommes dans une période de transformation, de passage entre un temps et un autre, et que ce qui va naître de cette transformation sera beaucoup plus intéressant pour l'humanité que ce que nous avons vécu jusqu'à présent.
Xavier Guillou, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils étaient à l'écoute de Radio Courtoisie, que j'avais le plaisir de recevoir Xavier Guillou pour nous entretenir du monde, de son état et de ses évolutions. Je laisse la parole à une auditrice. En remerciant les auditeurs pour la qualité et le nombre de leurs messages, une auditrice nous remercie de cette émission de haut niveau. Ce qui perd l'Europe, c'est que ce sont des peuples trop à gauche, il n'y a rien à attendre de l'Europe. Il faudrait des gouvernements fermes, sans excès. Le drame de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas dirigée, elle est gouvernée par des pleurnichards et non par des constructeurs. Nous sommes piégés par des destructeurs, et je voudrais moi aussi, en cette veille de Pâques, faire un petit peu profession d'espérance, et en tout cas souhaiter à nos auditeurs d'excellentes fêtes. À dans 4 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens présenté aujourd'hui par Hugues Sérapion, diffusé en direct samedi 22 mars 2008 de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et dimanche 23 dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission a été réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros ou 9 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.